Vous écoutez
RMC.
Je vais m'annoncer aussi pour retrouver une collaboration avec mon deuxième, mon troisième, ou inversement mon premier, mon troisième, ou inversement mon premier, mon deuxième, mon troisième.
Dans notre monde à nous, 1 plus 1 égale 2, 2 plus 2 égale 4, comme ça on devient selfish. Mais c'est 1 plus 1 égale 1, ou peut-être que 1 plus 1 égale 11.
Dans le podium, c'est quoi? C'est dans les 3 ou dans les 5?
Jusqu'à minuit, l'afterfoot.
Gilbert Bribois.
Bonsoir à tous, l'after continue jusqu'à minuit sur RMC, sur la chaîne After Foot TV évidemment, l'after première radio de France le soir avec vous jusqu'à minuit, le 32-16 est ouvert. Soirée exceptionnelle ce soir bien sûr, l'événement c'est le match OM Paris Saint-Germain, première victoire de Marseille au Vélodrome face à Paris depuis novembre 2011, on va en parler dans quelques instants, et deuxième événement, la cérémonie du Ballon d'Or qui est en cours, on va aller sur place dans quelques instants. Daniel Riolo est là. Daniel, bonsoir.
Bonsoir les amis.
Et Florent Gautreau est là, salut Florent.
Salut à tous.
Il est au stade à Marseille, Jean-Louis Tour est avec nous, salut Jean-Louis.
Salut tout le monde.
Les gars, c'est une soirée historique pour l'OM, enfin historique, oui, dans la mesure où ça faisait quand même 14 ans qu'il n'y avait pas eu de victoire marseillaise au Vélodrome face à l'OM. Il y a énormément de choses à dire ce soir, on va en parler dans quelques secondes, juste après les 3 points, car ce soir, pour un lundi, nous avons les 3 points exceptionnellement, c'est parti jingle.
L'important c'est l'essentiel.
Le plus important c'est les 3 points.
Et souvent l'essentiel c'est le plus important.
Flo, les 3 points.
Bah, mon premier point c'est qu'on a vu un OM, l'OM qu'on n'avait pas vu l'an dernier, qu'on attendait, qu'effectivement l'écart se resserre quand le PSG est un peu amoindri, mais je veux pas commencer par parler du PSG, et l'OM a fait un grand match, et je voudrais parler notamment de sa défense, parce que je pense que le mercato défensif fera la diff. Le deuxième, c'est que ce PSG là, malgré tout, et c'est presque rassurant de se dire que quand même, quand tu enlèves Doué, Dembélé, Barcola, Neves, ça peut pas être la même chose, mais il y a aussi tactiquement des choses bizarres, et ça n'a pas été un bon match du PSG à part de Vitinha. Et puis le troisième point, bah, c'est cette soirée un peu bizarre où il y avait la moitié de l'équipe, enfin une partie de l'équipe qui était au Ballon d'Or et l'autre partie qui était sur un terrain de foot, et que ça m'a paru un peu curieux, et que décidément cette cérémonie du Ballon d'Or me gêne plus que jamais.
Daniel, tes 3 points.
Bah, tu l'as dit, le premier point c'est l'événement, parce que l'OM qui bat le PSG, c'est devenu un événement, le match avec deux parties. J'ai aimé, c'est le point 2, la façon dont l'OM a joué dans la première période, beaucoup moins dans la deuxième période, et je me suis dit à un moment qu'ils allaient finir par gâcher leur fête. Bon, finalement c'est une fête pour eux, mais ils ont failli gâcher en abordant la seconde période d'une façon que j'ai pas aimé. Et le troisième point, bah, au moment où justement ce soir c'est la cérémonie qui va récompenser une individualité, moi ça ne me gêne pas, et j'aimerais quand même que de temps en temps on se souvienne que oui c'est un sport collectif, que oui l'entraîneur c'est très important, mais le PSG nous montre également ce soir, et l'OM quelque part avec ses recrues, que les individualités dans une équipe, quand elles sont là c'est très bien, quand elles sont pas là c'est moins bien, et que tu peux avoir toutes les tactiques de la terre, les intentions, les ceci, les cela, il y a des hommes sur un terrain, et que quand les bons sont là, ça change quand même les choses.
Moi, je vais rebondir sur ce troisième point de Daniel qui me paraît très important, parce que c'est vrai que c'est important sur la conception qu'on a du foot. Moi, je dirais que ce soir, au contraire, c'est le collectif marseillais, justement, c'est la solidarité. Ah
oui, c'est sûr, et c'est le Léon collectif, marseillais. C'est les hommes bien, c'était bien malin, toi, pour retourner ce que je dis.
Ah oui, mais je pense que
si t'as le collectif et les bons joueurs, c'est très bien. Quand t'as le collectif tout seul et pas les bons joueurs, c'est dans la merde.
Je pense que si ce soir, t'avais un Marseillais, que t'avais un Aubameyang, que t'avais mis 4 buts, je serais d'accord avec toi. Ce soir, j'ai vu surtout une équipe.
En fait, je ne comprends pas pourquoi tu t'obstines avec cette vision. Alors, ça a toujours été les individualités,
les gars,
qu'on fait gagner
le foot. On a le temps de faire le débat tranquillement.
Voyons.
D'abord,
il te manque les meilleurs Parisiens, ça se voit. Et
deux choses importantes.
Les Marseillais ont fait des super recrues, ça se voit aussi.
Deux choses importantes. Déjà le Ballon d'Or, et ensuite une annonce concernant l'after qui va vous plaire, vous supporters lyonnais. D'abord, on va au Ballon d'Or. Clément Brossard est sur place. Salut Clément.
Salut Gilbert, salut tout le monde.
Bon, raconte-nous ce qui s'est déjà passé et ce qui va se passer dans les minutes qui viennent.
Alors il y a eu un petit moment assez drôle juste à l'instant, c'est que on vient de nommer la meilleure équipe de l'année. Le public du Châtelet n'était pas au courant qu'il y avait une distinction pour l'équipe féminine et une distinction pour l'équipe masculine. Donc Arsenal a été nommé équipe féminine de l'année, et il y a eu des sifflets dans le théâtre. Et à l'instant, on va annoncer l'équipe masculine de l'année. Il y a peu de doute, évidemment, que le Paris Saint-Germain s'en tire sans la distinction. En revanche, on a eu déjà des trophées, des récompenses.
Le trophée Copa, notamment. La distinction, tu veux dire.
Oui, exactement. Oui. Lamine Yamal a notamment remporté le trophée Copa de meilleur joueur, de meilleur jeune, Vicky Lopez pour les filles. Le trophée Cruyff du meilleur entraîneur a été décerné à Sabrina Wiegman pour la sélectionneuse anglaise et pour Luis Enrique. Luis Enrique qui avait déjà prévu le coup, qui avait déjà fait un discours, qui a été notamment diffusé sur les écrans ici au théâtre du Châtelet. On a pu apercevoir notamment des sourires complices entre Désiré Doué, jouant en Eves, assis côte à côte, et Dembélé juste devant pour se moquer un petit peu du discours de leur entraîneur. Le trophée Yachine Leff a été remporté par Gigio Donnarumma, gardien du Paris Saint-Germain aujourd'hui à Manchester City, et le club de l'année donc, qui va être décerné dans quelques instants. Le prochain trophée évidemment que tout le monde attend, eh bien c'est le ballon d'or masculin. 22h48 okay. Pour l'heure, avec trois Parisiens encore en lice dans le top 10, à savoir notamment Vitinha, Hakimi et Dembélé.
À tout à l'heure pour nous confirmer qui est le ballon d'or, bien sûr, et puis nous débattrons tout à l'heure après 23h. Pour l'instant, nous on reste sur le match. Mais d'abord, sachez, vous savez qu'on est dans la 20e saison de l'After, on a plein d'annonces importantes cette semaine à vous faire, vous allez être surpris, et vous allez peut-être être surpris dès maintenant, puisque demain soir, Florent, Daniel, nous serons à Lyon. Pourquoi ? Parce que la première émission de l'After, le 4 avril 2006, s'est faite juste après un match de l'OL, évidemment, tout le monde s'en souvient, enfin nous on s'en souvient très bien, c'était Lyon-Milan AC, et bien sûr, élimination des Lyonnais ce soir-là, malheureusement pour l'OL, premier After, et il y a une personnalité du foot français qui nous a accompagnés pendant 20 ans, on s'est déchiré, il y a eu différentes étapes, c'est bien sûr Jean-Michel Aulas. Et Jean-Michel Aulas, pour célébrer les 20 ans de l'After, eh bien, sera avec nous demain soir. Demain soir, spécial Jean-Michel Aulas dans l'After. On sera à Lyon demain avec lui pour revenir sur ses 20 ans d'After, 20 ans de foot, 20 ans de foot à Lyon.
J'espère qu'il aura un mot sur toute l'actualité du football. Ah bah, parce qu'il y a plein de dossiers sur lesquels son avis m'intéresse.
Exactement. Donc, restez bien à l'écoute demain. Si vous êtes Lyonnais, évidemment, mais pas que si vous êtes Lyonnais, parce que Jean-Michel Aulas est toujours vice-président de la Fédé, il a toujours un avis sur tout, avisé, il a quand même fait des choses assez extraordinaires dans le foot, hein, mine de rien, même si on n'a pas toujours été d'accord avec lui.
On est pressé de le rencontrer, enfin, de le revoir, parce qu'on s'est déjà vu quand même pas mal de fois.
Ce sera demain soir, bien sûr, dans le cadre de nos 20 ans, c'est la première étape d'une tournée que nous lançons dans ce mois de septembre, et tous les mois, il y aura des étapes surprises comme ça, qu'on va vous distiller pour célébrer la 20e saison de l'After et aller au contact des auditeurs, parce que c'est aussi ça le but, hein, c'est de vous faire participer à toutes ces émissions. Voilà. Et puis tiens, je précise autre chose, que les Drôles de Dames qui n'étaient pas là entre 20h et 22h sont disponibles en podcast. Nicolas Jamain a enregistré l'émission malgré le match OM-PSG, et donc podcast dispo des Drôles de Dames si vous voulez l'écouter demain matin, ce soir tard, après l'after, quand vous voulez. Bon, on y retourne sur le match. On l'a dit, victoire de l'OM qui, bon, historique, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais enfin bon, tellement inhabituel.
Bah quand pas gagné depuis 14 ans,
qu'on voit une célébration ce soir.
C'est un petit moment historique.
Exactement. Oui, à domicile.
Oui, ils ont gagné un match au Parc, c'est vrai.
En 2020.
En Ligue 1, vous voulez dire. Ils ont gagné en Coupe de France au Vélodrome.
Et en Ligue 1, ils ont gagné au Parc.
Oui, en 2020.
C'est ça.
Avec le but de Payet là.
Et le match en Coupe de France.
Donc en Ligue 1, au Vélodrome.
Et ça reste devant leur public un moment quand même qui, à mon sens, est assez important ce soir. Donc, je disais, l'analyse du match, je pense qu'on a vu la même chose, que j'ai beaucoup aimé ce qu'a fait l'OM dans la première période, à savoir faire ce qu'on attend toujours qu'une équipe fasse contre un dominant, et surtout quand le dominant s'appelle PSG, c'est-à-dire un jeu parfaitement huilé, un jeu très technique, un jeu fait de récupération rapide, de mise en œuvre des offensives rapides, aller presser haut, ne pas les laisser respirer, les étouffer, les agresser même, parce que je trouve que dans l'attitude, on a vu dans cette équipe de Marseille ce soir ce qu'on attendait depuis longtemps et qui avait peut-être été pensé d'autres années mais mal fait. Là, ils l'ont bien pensé et bien fait. Ils se sont créés une occasion très vite, même si Lucas Chevalier a beaucoup aidé. Et le fait de marquer leur a donné beaucoup de confiance ensuite. J'ai bien aimé cette première période, encore une fois, je le répète, qui vraiment me semble être tout ce qu'il faut faire si tu veux emmerder ce PSG-là, diminué par l'absence d'individualité hors norme qui n'était pas là. Voilà, je parlerai ensuite de la deuxième période.
Comment tu veux le résumer, en fait, si je le résume par leur rentrée dans le chou, c'est un bon résumé ?
Je pense qu'il y a eu d'abord ça, Et ensuite, parce que ça suffit pas, une fois que tu presses, que tu vas rentrer, que parfois tu mets le pied, que tu as été à la limite parfois sur certains contacts, hein, derrière, une fois que tu as le ballon, il faut pouvoir l'utiliser. Ils l'ont eu, le ballon, ils ont essayé de l'utiliser. On peut pas dire que dans leur phase offensive de récupération haute, ils ont souvent bien utilisé ce ballon. Il n'y a pas eu d'occasion de ce côté-là de l'OM. Les occasions qu'ils ont eues tout au long du match, ça a été des transitions finalement, qui ont mal été exploités parce que certaines individualités devant, à mon avis, ne vont pas assez vite et sont plus vraiment dans le coup, je pense, comme Aubameyang. Mais ça, on y viendra après parce que c'est plus la deuxième période. Mais encore une fois, je vais laisser la parole à Flo. Vraiment, cette entame, cette intention initiale, c'est tout ce qu'on attendait, même pas que de l'OM, d'un adversaire capable d'emmerder ce PSG.
Ouais, moi, les deux choses, effectivement, pour rebondir sur ce que dit Daniel, c'est, je pense qu'il y a deux aspects. T'as l'aspect, bon, que tu viens d'évoquer, je vais commencer par celui-là, c'est l'attitude, comme tu dis, Gilbert. C'est une attitude.
Conquérante, quoi. Voilà.
Ouais, c'est-à-dire que l'an dernier, ils se sont trompés dans la semaine qui précédait le match sur le fait de pouvoir aller concurrencer le PSG. On parlait même pour le titre à l'époque. Là, ce que j'ai dit vendredi quand on a fait l'avant-match dans l'after, j'ai dit, déjà, ils peuvent concurrencer
c'est
vrai, le PSG.
Raison, c'est exactement ce qu'on n'a pas vu l'an dernier
ils ont tout simplement pensé à concurrencer un PSG, certes diminué, sur un match. Ce qui, ça, est possible sur un match. Faut oublier l'histoire du titre et tout. Et ça, ils étaient dans la bonne attitude. Et aussi parce que, il y a quand même l'expérience. Il y a deux choses, à mon avis. T'as l'expérience des Pavard, Hagerd, Hushberg, qui était bon ce soir.
Ça s'appelle les individualités.
Ouais,
alors, ils font également la différence
dans
une équipe.
Ça en fait beaucoup. Et je pense que l'homme symbole ce soir, c'est Greenwood. Dans justement ce que tu as décrit, ce que vous avez décrit sur l'investissement et le pressing. Parce que honnêtement, jusqu'à la 80e, même s'il était un peu cramé à la fin.
Est-ce qu'on l'a déjà vu comme ça?
Jamais. Moi, j'ai jamais eu autant à ce point sur l'aspect défensif du jeu. Par contre, évidemment,
son implication globale.
Mais qu'est-ce que tu vois derrière? Moi, je comprends pourquoi il le fait pas, mais il a tort d'habitude. C'est que derrière, t'as moins de lucidité pour les marquer. C'est évident. T'as un peu moins de facilité, un peu moins de vitesse, mais c'est normal. Il a donné tout ce qu'il avait.
Ouais, après,
tu lui pardonnes. Tu lui pardonnes plus facilement, du coup, puisqu'il a fait tous ses efforts et
absolument.
Tout. Parce que si tu rates la même action sans avoir fait ses efforts, ballon tombe dessus et on dit que ton match est raté.
C'est un bon exemple à donner, ce qu'avait fait Dembélé dans la finale contre l'Inter, ce qu'a fait Greenwood ce soir, ce que font tous les attaquants modernes, en fait. Donc ça, c'est une chose. Et quand même, je vais revenir à l'aspect tactique. Là, je pense que Luis Enrique a perdu sa bataille tactique ce soir et qu'il est un peu perdu quand même par l'accumulation des absences. Cette défense à 3 avec ses deux pistons, pour moi, la bataille des pistons, c'est une bataille capitale. Aujourd'hui, Hakimi et Nuno, qui sont habitués à un système à 4, se retrouvent plus haut. Ils se font manger dans leur couloir, dans un premier temps, par Wea, qui a été énorme, et par Emerson Palmieri. Et ça, moi, voir les deux meilleurs latéraux du monde, mais dans un système à 4, se faire manger comme ça en tant que piston, je pense que là, cette défense à 3 parisienne n'était pas la bonne option. Les pistons
j'ai mal à comprendre pourquoi il a tenté ça.
Moi aussi, je ne comprends pas, puisque devant Tabouiri,
quel était le but
Moi, je pense que l'idée, on met pas des jeunes sur un Marseille PSG au Vélodrome. Je pense que ça a été ça son idée. Donc à partir de là, quelle équipe on peut faire en mettant le plus de joueurs d'expérience.
Faire rentrer un Zabarni qui a pas été mauvais par ailleurs, mais moi je pense que tu désorganises.
Il gagne quasiment tous ses duels. Il est bien.
Non, mais il est bon, mais c'est pas l'option aujourd'hui. C'est que en désorganisant en enlevant tes automatismes liés à cette défense et tout simplement au système habituel, mais déjà la défense à 4 était deux points forts que sont Nuno Mendes et Hakimi. Moi, je trouve que tu as déstabilisé l'équipe. Cela dit, encore une fois, Emerson Palmieri a gagné ses duels. Wea a été énorme.
Gros match aussi, Emerson Palmieri.
Gros match des deux côtés, des deux pistons. C'est pas vrai. Je pense que ce soir, on peut dire que De Zerbi, qu'on a parfois beaucoup critiqué tactiquement, lui a réussi. Évidemment que c'est mieux d'avoir Pavard pour le coup en troisième centrale que sur un côté. Donc là, Pavard, Aguerre, Balerdi. T'as eu les deux boulettes de Balerdi habituelles. Mais en dehors de ça, c'est énorme. T'enlèves les deux boulets de Balerdi. Dans le jeu aérien et dans l'expérience, ils ont été énormes.
Écoutez Balerdi, on va l'entendre. On aura d'autres réactions tout à l'heure. Les conférences de presse aussi des coachs. D'ailleurs, petit chapitre prévu sur De Zerbi, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur lui aussi. Mais écoutez Balerdi, s'il y a quelques instants sur Ligue 1+, juste après match.
C'est la folie. Il mérite. Cette supporter, il mérite. Et nous aussi, parce qu'on travaille toujours pour ça. Et on est content. Vraiment content. On est venu ici à la maison. Avec cette mentalité de laisser pas jouer à eux. Et je pense qu'on a bien fait, tous. Et on a bien travaillé. Et le travail, ça paye.
Voilà, Et De Zerbi a réussi à faire ce qu'il n'a pas réussi à faire l'an dernier. Quoi,
L'OM a aujourd'hui les moyens d'avoir une vraie belle équipe. Flo a raison, cette défense, si elle se met en place, et je ne vois pas d'autre issue, ça fait un petit moment qu'on le dit maintenant, vu ce que tu as recruté, que de jouer à 3, ça sécurise en plus Balerdi. Et surtout, bon, bah, l'homme du match ce soir, oui, même, au-delà même de son but, Aguerd, et vraiment, je sais pas si on a vraiment douté, parce que ça faisait un petit moment qu'on le voyait plus et tout, mais.
Ouais, puis il a eu aussi un moment de blessure, donc on l'a
la
un
belle
peu
impression,
vu,
mais... la belle impression qu'on avait de lui, ce qu'on pense de lui depuis longtemps, voilà, c'est un vrai top défenseur. Donc.
Et un joueur ultra habile dans la surface adverse, exactement. Et pas que de la tête. Exactement. Vous allez voir qu'il va mettre
non, mais c'est
comme
un bon
ça.
Défenseur technique, effectivement. Ce qui leur manque maintenant, c'est de la confiance et du calme.
Ah,
les deux vont aller en.
Le
deux,
calme, t'as l'impression que ça n'existe pas.
Bah, s'ils arrivent à trouver du calme et de la confiance, ça fera du bien à un mec comme Balerdi. Elle fera du bien à certains joueurs. Le calme, ça fera du bien à l'entraîneur. Si l'entraîneur se calme un peu, des mecs comme Balerdi vont peut-être également se calmer. Il faut en fait qu'ils contrôlent le feu qu'ils ont envie de mettre et qu'il y a autour de club. On n'arrête pas de le répéter, ce truc-là. Peut-être que la victoire de ce soir va les aider à se construire, parce que je pense qu'il y a de la qualité. Højbjerg, depuis le début de la saison, m'avait semblé vraiment en dessous. Ce qu'il fait ce soir, c'est tout juste, c'est tout bon, à tout point de vue. Il y a beaucoup de joueurs qui m'ont plu. Ouéa, j'ai souvent été sévère avec lui, non pas parce que je trouve qu'il est mauvais ou bon, mais c'est justement, je n'arrivais pas à avoir un avis. Pour moi, c'est un mec qui jusque-là était un peu insignifiant. Je trouve que ce soir, il a montré énormément de caractère. Il avait commencé à me plaire à Madrid. Là, il m'a plu. Maintenant, il reste des choses encore.
Et juste sur Ouéa, Daniel, j'ajoute juste un petit truc. Pour moi, ça fait partie de la bataille tactique gagnée par De Zerbi. Parce que Ouéa, il n'a pas été aligné une seule fois à cet endroit-là depuis le début de saison. Et Jean-Louis, là, il le met vraiment sur Nuno Mendes.
Ouéa, il est venu pour ça.
Luis Enrique vient de s'installer en conférence de presse. On va écouter. Et ensuite, on revient à nos débats, bien sûr. Luis Enrique en direct, conférence de presse. Est-ce qu'on l'entend? On va régler le micro. Il a commencé. Allez, c'est bon, on écoute.
Être un but pour l'adversaire. Et on a peut-être, pendant les mi-temps, a manqué de profondeur, d'appel en profondeur. Et on a fait beaucoup d'erreurs. Cette première mi-temps, beaucoup d'erreurs simples qui ne permettent pas d'avoir de la continuation. Mais je pense que le deuxième mi-temps a été beaucoup mieux. On a contrôlé tous les matchs. Mais on a créé suffisamment de chances pour faire match nul. Mais on n'a pas marqué les buts. Et ça a été difficile dans le commencement du match. C'est ça un peu mon analyse.
Bon, on va écouter encore une réponse ou deux.
Je suis assez d'accord avec lui sur la deuxième période. On continue de l'écouter.
Oui, on va, ouais. Malheureusement, on n'entend pas les questions.
Et c'est sa fondation d'ailleurs qui a récompensé le ballon d'or.
Félicitarte pour le premio que acabas de ganar.
Avec sa fondation de Santos.
Yo no sé, bueno, me imagino que estarás contento por ello, no mucho por el resultado de hoy. Hoy nos ha visto al PSG, que estamos habituados a ver de presión alta prácticamente los 90 minutos.
On a vu le PSG qui a l'habitude de dominer pendant 90 minutes.
La poca pretemporada que habéis hecho. Si crees que esto se va a notar a lo largo de la temporada, o también en qué forma el equipo ha podido estar un poco con la cabeza no muy en el partido. Después de las circunstancias del viaje de ida y vuelta ayer.
Voilà, elle revient sur les circonstances du report, du voyage, aller-retour.
Est-ce qu'ils avaient la tête ailleurs?
Est-ce qu'ils avaient, voilà, est-ce que ça a joué en fait sur ce qui s'est passé ce soir?
En espagnol ou en français?
Non, en français, s'il vous plaît.
Non, mais la question lui a été posée en espagnol, c'est normal qu'il demande ça.
Je ferai en français et en espagnol. Et je ne suis pas d'accord. Je pense que tu vas comprendre mon français, parce que c'est accent asturiano. Je ne suis pas d'accord. On a pressé. De une manière sensationnelle. Son gardien a bouté les ballons longs, a joué ballon long tous les temps. On a pressé incroyable. Quel que nous pouvons critiquer ou penser, c'est que peut-être on a fait beaucoup d'erreurs simples. Et quand tu fais en ce type de match, c'est beaucoup et tu as concédé un but, c'est difficile toujours de changer les résultats. Mais. Je ne suis pas content des résultats, mais de l'ambition, de la confiance, de tout ce que c'est l'ADN de cette équipe. Je suis content et c'est normal de perdre quelques matchs pendant la compétition. rien de plus, rien à ajouter.
Il est nickel.
Si te lo digo en espagnol, creo que no sé qué partido.
Bon, voilà, ça, ouais, il est nickel, français. Tu vois. Faut quand même, pendant un an, on a jamais entendu ça. Il est nickel, là, dans tout ce qu'il dit. Moi, je suis d'accord avec lui. Il le dit bien. Il dit au journaliste, je suis pas d'accord avec toi. Il lui explique pourquoi. Il n'y a pas de mépris, il n'y a pas d'arrogance. En plus, je pense qu'il a raison. Je pense que tu peux pas dire. Moi, j'ai du mal à dire que ce soir le PSG a fait un mauvais match. Ils ont leur ADN, leurs intentions.
Première mi-temps, il a dit beaucoup d'erreurs techniques.
Oui, mais les erreurs techniques sont venues aussi d'un ensemble collectif technique qui est moins fort que d'habitude. Quand il te manque Johan Neves au milieu, quand tu as Zaire Emery qui n'est pas aussi fin techniquement, qui peut perdre certains ballons ou qui dans les placements va être un petit peu moins juste dans son intention, dans son mouvement. Ce qu'il faudrait plutôt lui demander, si on lui demande, c'est pourquoi il a opté pour cette tactique avec les trois mecs derrière. À un moment, Marquinhos allait arrière droit, Zaire Emery allait un peu arrière droit, on était un petit peu perdu, Hakimi a joué plus haut. C'est plus ça que je lui reprocherais ce soir. Mais dans l'intention, le fait de presser, ils ont quand même fait une deuxième mi-temps. Et bon, alors j'y viens, ce que j'ai pas aimé de l'OM, c'est l'OM fait une première mi-temps en essayant de jouer haut, en essayant d'être protagoniste. Et entamer la deuxième mi-temps. Bon, tu le sais que le PSG va essayer de revenir, va essayer de pousser, c'est leur style de jeu, ils le font, même si les titulaires sont pas là, ils vont le faire parce que malgré tout, ils ont beaucoup de qualité. T'as fait une deuxième mi-temps, quasiment aller le cul dans tes 30 mètres. C'était petit bras. Alors certes, c'était valeureux, certes, c'était courageux, certes, ils ont allé au duel, ils ont pas craqué, mentalement, ils ont été forts, tu peux les féliciter pour tout ce qui est attitude caractère l'OM, mais sur intention de jeu, ça a donné l'impression on a mis un but au début, pourvu qu'on tienne jusqu'au bout,
parce qu'ils ont
on va s'y mettre, on va tenir,
parce qu'ils ont pensé transition
et ensuite
ils les ont eu d'ailleurs Aubameyang là,
mais a priori ça devrait pas être le style de l'OM,
non, mais
même, hein.
En l'occurrence je pense que stratégiquement c'était de dire on va jouer les transitions, on va essayer de le faire. Ils ont failli le faire. Moi je pense qu'effectivement la clé du match c'est la première période. Tactiquement Luis Enrique est battu, la bataille des pistons est gagnée par Weah Palmieri et le but vient très tôt, et là derrière c'est plus le même match, c'est très compliqué. Mais Rouli fait encore des arrêts de dingue. Il y a les occasions, hein. Rouli sur la frappe d'Hakimi.
Il y a plus d'occasions de frappe de loin que de près. D'ailleurs, c'est pour ça que l'expected goal du PSG est aussi faible ce soir par rapport à l'impression globale qu'on a. Parce que des occasions, le PSG en a eu. Parce que Vitinha est un joueur absolument hors norme, qui va certainement être dans le top 3 du Ballon d'Or et c'est largement mérité. Et je me souviens quand il est arrivé. Parisien. L'ensemble des observateurs doutaient, mais quelle recrue Vitinha.
Neves, on fera une évaluation tout à l'heure.
Mais Vitinha c'est un joueur absolument extraordinaire. Vraiment,
un instant, on est de retour, on continue le débat avec Jean-Louis également au stade. Sachez qu'il y a un match en Italie ce soir entre Naples et Pise, le promu. 2-1 pour Naples à l'instant. La défense de Pise penche un peu.
Et tout ne va pas de travers à Naples alors. Exactement. Même quand il joue Pise.
À tout de suite dans l'after.
RMC, 22h, minuit, l'afterfoot.
Gilbert Bribois.
Il est 22h24, Daniel Riolo est là, Florent Gautreau est là, le Ballon d'Or tout à l'heure après 23h bien sûr, mais pour l'instant on se concentre avec Jean-Louis Tour qui est également en direct de Marseille sur la victoire de l'OM face au PSG. On va écouter Timothy Weah dans quelques secondes. Juste Jean-Louis, on n'a pas dit un mot de l'ambiance parce que là, bon, nous devant la télé on a l'impression, alors moi je dis toujours que Marseille c'est la plus grosse ambiance de France, bon, ce soir c'était une soirée de folie, même si j'ai l'impression que c'était pas complètement plein, parce que match de lundi soir, peut-être qu'il y a beaucoup de supporters qui n'ont pas forcément pu se déplacer.
Non, bah ça on le raconte depuis 24 heures effectivement, mais c'était quand même assez plein et l'ambiance était au rendez-vous, même aux abords du stade, t'avais pas l'impression que t'étais un lundi, hein. Franchement sur le parvis en arrivant c'était exceptionnel, et après l'ambiance, franchement il y a eu un espèce de soulagement pendant toute la deuxième période, tout le monde était hyper tendu et le soulagement à la fin, ça a fait un bruit qui vraiment pour le coup est très rare en Europe, hein, un bruit comme ça, et ils sont restés très longtemps sur la pelouse, hein, les joueurs, pour profiter avec les deux virages, c'est reparti à plusieurs reprises. C'était vraiment très impressionnant comme ambiance.
Bon, et évidemment, on a pu en profiter sur RMC.
Il y a un truc, Gilbert, aussi, c'est que le match a permis cette ambiance aussi. Si tu veux, l'entame parfaite, ils se sont mis le public dans la poche dès le début, et après, tout était bon.
T'avais une équipe de battants ce soir, c'est la base du foot finalement.
Ouais,
ces trucs.
Et puis t'as aussi
la base de l'OM aussi. Hein.
Voilà, ouais. C'est ça. Je pense que. si t'arrives, comme disait Daniel, à garder le lait dans la casserole, c'est pas pour autant que tu dois
cette image.
Ouais, c'est pas pour autant que tu dois l'empêcher de monter.
En général, en fin de match, ça déborde à Marseille. Ouais, encore débordé.
Ça a débordé, mais pas un peu à cause des Parisiens. Donc finalement, c'est pas trop les Marseillais qui sont en cause. Moi, ce que j'ai aimé.
Deux Herbie, on y revient.
Ouais, deux Herbie, oui, mais ce que j'ai aimé, moi, dans la fameuse attitude et dans ce que décrit Jean-Louis aussi au stade, c'est que les joueurs ont célébré leur propre geste défensif. Bon, Balerdi en a rajouté dans les oreilles de ses adversaires, mais Aguerd a célébré quand il a sauvé un truc. Moi, je trouve que ces ambiances-là, on les a assez peu en Ligue 1. Et j'ai vu, par exemple, même des Lyonnais, l'équipe lyonnaise le faire, les gars entre eux, les joueurs, les défenseurs. Ce qui était bien ce soir, c'est ça. C'est-à-dire que ça n'a pas été un immense match, techniquement parlant. Ça a été une très belle bataille, pleine de caractère. Et les Parisiens, évidemment, en prenant ce but à la quatrième, ils ont eu du mal et ils ont été vexés. On l'a vu à la fin, on l'a vu à leur attitude sur le terrain. Ils ont eu un peu de mal en première mi-temps à accepter d'être pris à la gorge comme ça. Je pense que c'est ça la grande victoire. Après, l'autre grande victoire, c'est aussi, je le dis, dans le mercato, parce que et dans ce qu'a fait De Zerbi, parce que le mercato t'amène donc ces fameux joueurs d'expérience qui sont hyper importants. On l'a dit là ce soir. Et après, De Zerbi, on l'a pas assez dit, mais en très peu de temps, pour le coup, lui qui a eu du mal parfois à concocter des équipes, là, il a fait, que ce soit pour Madrid, même s'ils se sont fait marcher dessus en partie, et ce soir, il a réussi à mettre son équipe en place relativement rapidement, parce que le mercato, c'est il y a 10 jours.
Alors Flo, en faisant le lien entre les deux matchs, je trouve que, sans le vouloir, tu poses une vraie question, parce que deux matchs de suite, alors, ces matchs-là étaient redoutés par l'OM, parce que enchaîner Real et PSG, a priori, enfin c'est même pas a priori, c'est certain, l'OM est en dessous de ces deux équipes, on n'est pas du tout dans le même monde, donc tu disais, ah, si tu termines avec deux défaites, tu sais, il y avait le triptyque avec Lorient avant, bon, Lorient tu t'en es sorti, le Real t'as pas été ridicule, et le PSG, tu gagnes. Mais les deux matchs, tu les as joués dans un style qui a priori ne doit pas être le tien. Enfin, c'est pas ce qui est vendu, c'est pas ce qui est préparé, c'est pas le style De Zerbi, c'est pas ce qu'a priori on devrait attendre de l'OM. Donc on attend une évolution, on attend autre chose. Et quand je dis on l'attend, c'est oui, il va falloir le voir. Peut-être dès vendredi à Strasbourg. Enfin, je sais pas comment va évoluer cet OM. Il a construit cette équipe, t'as raison. Ce soir, ok, les joueurs sont arrivés. Encore une fois, il a fait très bonne impression à Madrid. Ce soir, encore mieux. Mais ils vont pas faire les matchs contre les gros. Chaque fois, ça veut dire attendre et jouer en transition. Ou est-ce qu'il y a autre chose dans la musette?
La réalité, Daniel. Bon,
après, la réalité, c'est que ce sont deux équipes qui sont au-dessus.
Exactement.
Tu as raison.
Quand t'es
donc
en dessous,
c'est une adaptation.
Moi, quand t'es en dessous, ça me choque pas d'arriver
non plus.
De dire à tes
moi
joueurs, ne vous prenez pas pour ce que vous n'êtes pas.
Moi non plus. Mais la question que je pose, c'est
sur le terrain.
Maintenant, il va falloir voir autre chose. Dès vendredi, il faut voir autre chose.
Ouais, mais t'as vu, tu as dit, on l'a souvent dit.
Bah, il y a deux championnats. Vendredi, je joue contre une grosse équipe.
Il y a deux championnats. Il y a le championnat du PSG et le championnat des autres équipes. Eh ben, eux, ils se sont dit ce soir,
c'est Strasbourg.
On va pas faire comme l'an dernier en disant tiens, on va aller jouer dans le championnat du PSG, jouer notre championnat avec mon cercle,
une bonne
équipe
approche.
PSG moindre, et je pense
approche.
C'est une bonne approche.
Dans l'approche, ils se sont pas trompés, ils se sont servis de la
après dans les deux
dernières.
Cas, même si Madrid c'était bien et ils se sont fait marcher dessus, il y a eu 10 arrêts de rouler en première période. Là,
oui,
en
c'est
deuxième,
ça. Et muté dans ton style, c'est-à-dire faire ces deux matchs-là, être certainement plus ambitieux à Strasbourg, recevoir l'Ajax où tu as déjà obligation de gagner, parce que dans ton menu, il y a des matchs que tu dois gagner en Ligue des Champions, des matchs, le Real, on ne te dit rien si tu perds, l'Ajax à domicile, il va falloir gagner. Bon, voilà, à un moment, il va falloir changer, s'adapter en permanence, et ces adaptations-là.
C'est intéressant d'ailleurs, Jean-Louis,
je dis surtout pas qu'ils ne vont pas le faire. Je dis que c'est le défi de demain, c'est qu'on voit autre chose de cette OM.
Jean-Louis au stade.
Ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont eu vraiment les trois types d'adversaires depuis le début de saison. Ceux où ils sont vraiment en dessous, donc ils peuvent jouer bloc bas, Real et Paris. Ceux où ils sont au-dessus, donc Lorient, Paris FC, par les individualités, ils arrivent à marquer, à être bons. Et deux matchs où tu es à peu près dans ton championnat et tu dois faire le jeu Rennes et Lyon. Et là, tu n'as pas réussi à le faire depuis le début de saison. Donc, ça va être intéressant, justement, Strasbourg dans cette optique.
Ils nous attendent depuis tout à l'heure, supporters marseillais. Bonsoir, Morad.
À tous.
Bon,
vous avez dit à peu près tout ce que je voulais dire.
Mais non, mais là, préambule quand même. Ça te fait du bien, là, de dire enfin, on a réussi à les battre?
Alors moi je suis pas je suis 100% marseillais, mais je suis pas le anti-parisien de base. Paris, on bosse pas dans la même catégorie. Donc comme ça a été si bien dit, ils ont leur championnat, on a le nôtre. Donc on gagne, tant mieux. Alors, on gagne, c'est un exploit. On perd, c'est la normalité en fait. Je suis pas dans faut être réaliste, avoir les pieds sur terre. Donc, on a gagné, tant mieux, c'est une bonne chose. Contre le Real, on aurait pu faire match nul, même si on, je pense qu'on serait braqué sur le coup du pénalty, mais après, c'est, bon, c'est le football, c'est comme ça. Mais, pour moi, on fait un match d'homme ce soir. On fait un match à l'image de Roberto De Zerbi, avec sa grinta.
Avec Los Huevos.
Daniel a dit un truc qui est totalement vrai. Faut qu'ils apprennent à se calmer. Et on sent qu'il y a des petits manquements sur le cadre technique. On va pas revenir sur le recrutement, sur la perte de Rabiot et de Rongier, parce que pour moi c'est une erreur monumentale, mais ça c'est fait. Il y a une interrogation sur O'Reilly, genre Nico Gomez plutôt que lui.
O'Reilly, on en a pas parlé. J'aime bien le match qu'il fait.
Pour moi, Gomez c'est.
Ouais, mais
Gomez,
si tu veux du jeu, t'auras besoin plutôt de Gomez dans tes matchs où tu veux du jeu que de O'Reilly. Je rejoins avec ce que disait Jean-Louis juste avant. C'est dans les matchs, même dans les matchs contre les petits là. Je pense à PFC Lorient, t'as pas encore eu ce que tu dois avoir de l'OM. T'as eu des individualités qui t'ont sauvé le truc, mais collectivement et dans l'animation offensive, t'as pas eu. Et dans l'animation offensive, évidemment, moi je préfère Angel Gomez que O'Reilly, mais comme t'es dans ces matchs-là, t'es dans les matchs les plus faciles, entre guillemets, à mettre en place, pas à gagner, parce qu'en face, t'as du lourd. Mais c'est plus facile d'envoyer tes mecs à la guerre avec les Briscard et les Haggard et les Pavard et les Hushberg en leur disant, et ils sont d'accord avec ça, apparemment, tant mieux. Voilà comment on va faire, et éventuellement on fera de la transition même en deuxième, que de mettre en place cette fameuse animation offensive qui tarde à venir sous De Zerbi. Et là, comme dit Daniel, comme vous dites, pour l'instant on ne l'a pas trop vu quand ils en ont eu l'occasion, et on va voir s'il est capable de la mettre en place. Pour l'instant, il a réussi l'intégration des recrues, mais notamment défensive, et ça c'est énorme, parce que l'OM pêchait tellement défensivement avant l'arrivée de Pavard et Haggard, que là, plus un roulis en feu... T'as une défense énorme, et là même au niveau de la Ligue 1 et de la Ligue des Champions, ça change tout.
Donc tu fais une intégration avec des joueurs qui sont des très bons joueurs. C'est en fait, j'ai envie de te dire, on dit toujours que quand c'est des bons joueurs, c'est toujours plus facile. Ça reste le football. Mais alors je mets de la nuance. Hein. C'est un super match, pas de problème, on est gagné. Mais il y a certains manquements. Il y a un truc. Vraiment, je reviens à rebondir sur ce que dit Daniel, et pourtant je suis pas toujours d'accord avec toi, Daniel, mais là pour le coup t'as vraiment raison. Pour moi il faut un peu plus de calme et de réflexion logique. Balerdi,
le calme, excusez-moi, ce soir c'est pas ce soir qu'il faut le dire, il faut plus de calme. C'est justement parce qu'ils ont été en transe qu'ils ont réussi aussi ce match. Moi le calme, c'est plus quand il faut faire le jeu, quand il faut maîtriser ses nerfs, pas ce soir.
Hein. Balerdi pendant le match, pour moi c'est pas normal. Il est dans la
propre. T'es à la limite.
Alors, je prends une parenthèse. Brizard, c'est un très bon arbitrage. Pour moi, il a fait un bon arbitrage. Mais c'est un autre arbitre qui le prend dans le pif. Le jaune, voire un rouge, il peut les prendre
pas. Et Balerdi, il sera toujours comme ça. C'est son style. C'est défenseur limite d'il y a plus 20 ans que d'aujourd'hui, quoi. Mais, et c'est pour ça que quand il joue à deux simplement dans l'axe, souvent, la limite, le fil, il est plus fin.
C'est même moins gênant parce que si à rouge, il repasse à 4, ils ont toujours deux défenseurs dans l'axe. Peut-être ça la tactique, en fait.
Mais voilà. Mais quand il est sous pression, surtout quand il y a un peu d'espace dans son dos, c'est toujours plus compliqué. Et dans une défense où il a deux mecs avec lui et il défend de bas, souvent, il va être bon. Ce soir, au final, il est bon. Il y a les deux hésitations au début de match, mais à la fin, à l'arrivée, il est quand même bon.
On va faire une évaluation dans quelques secondes. On va parler de De Zerbi également, qu'on attend en conférence de presse. On se retrouve tout de suite dans l'after analyse de la victoire de l'OM face au PSG 1-0. Et Ballon d'Or à suivre normalement d'ici un petit quart d'heure, l'annonce du Ballon d'Or. Donc, on est sur place et on s'y rendra évidemment dès que ça se précise. À tout de suite dans l'after, on est là jusqu'à minuit.
RMC jusqu'à minuit, l'after foot.
Gilbert Bribois.
Il est 22h38, Jean-Louis Tour est toujours au stade à Marseille, Florent Gautreau est là, Daniel Riolo également. On continue notre analyse du match, supporter parisien marseillais. On vous attend au 32-16. Beaucoup de messages également sur notre numéro WhatsApp que vous connaissez, 0612 424 424. J'en lirai quelques-uns tout à l'heure. De Zerbi. Alors, De Zerbi, il a réussi à se faire expulser à la fin. Expulsion, c'est un peu ridicule parce que finalement, il était derrière le banc. On l'entendait gueuler derrière le banc. À la fin du match, il est rentré sur le terrain.
C'est ridicule. Il faut bien que l'arbitre se fasse respecter. Il était en pétage de plomb. Qu'est-ce que tu voulais dire?
Il est en pétage de plomb, ce qui est un problème. Mais si tu l'expulses, il doit sortir, il doit pas pouvoir se mettre
bien sûr
à course libre juste derrière le banc.
Par mon avis, il va prendre plus d'un match et il sera pas juste derrière le banc.
Et il pénalise son équipe en fait. Et franchement, c'est dommageable.
Heureusement que Benatia l'a calmé un peu parce qu'il est en vrillage complet.
À la fin, une nouvelle fois bagarre, comme lors des matchs amicaux de l'OM. En fait, cette tension permanente qui est autour de l'OM, elle ne s'arrête jamais.
Si cette équipe veut grandir avec la qualité des joueurs et l'idée de jeu du coach, il faut absolument qu'elle se calme. Le problème, c'est que je n'arrive pas à me souvenir de la dernière fois où j'ai vu calme De Zerbi. C'est comme si c'était...
Peut-être le matin quand il se réveille.
Tout était trop pour lui, quoi. Mmh. Tout est, l'événement est trop gros, la pression qu'il supporte, elle est trop forte. Il peut pas faire une saison comme ça. Il peut pas. Et là, maintenant, il a des joueurs, il a de quoi faire une belle équipe, il a des choix. Et il faut qu'il, il faut que son cerveau, il le mette dans le frigo, quoi. Il peut pas faire des matchs comme ça sans arrêt avec la cocotte minute à la place du cerveau.
Je pense surtout que c'est
déjà il sera suspendu vendredi déjà.
C'est très dur à mon avis pour une partie de l'effectif, pas pour tout l'effectif. Je pense que maintenant qu'il a des gars comme il avait déjà Hugeberg, mais les Pavard et les Haguerd qui sont là, eux en l'occurrence que des herbes sexy comme ça sur le banc. Eux, ça les touche pas. Moi, je pense à ceux qui n'ont pas l'habitude des gros matchs.
Mais je te disais tout à l'heure, Balerdi,
c'est un jeune joueur. Bah, et il y en a plusieurs, des jeunes joueurs. Il y en a d'autres. Il y a le banc aussi qui est avec lui. Et c'est plutôt ça. C'est en ce sens qu'il devrait travailler et que Benatia devrait travailler. Parce que Benatia, quand même, on l'a vu à la fin. Et c'est lui-même qui resserrait les lignes et tout, qui faisait des gestes d'entraîneur parce qu'il était descendu à côté du banc de touche. Donc là, à un moment donné, on est à Marseille, quoi. mais en revanche, là encore, le recrutement va faire du bien parce que tous ces joueurs-là, les Haguerd et compagnie, bon, Haguerd, c'est encéphalogramme plat. Hein. Quoi qu'il se passe, je ne veux pas s'affoler.
Il a un minimal à sang-froid.
Ah non, mais il ne va pas s'affoler.
Lui, il est
Pavard,
parfait,
on le connaît, il ne va pas s'affoler. Bon, ben, Hugeberg,
ils ont mauvais dos, quoi, ces mecs.
Donc, si tu veux, il va y avoir comme du monde dans le vestiaire pour calmer, du monde sur le terrain pour calmer. En revanche, c'est vrai que si tu es un jeune joueur et que tu vois ton coach, déjà, qui te pète les plombs, qui hurlait sur le côté droit, c'est-à-dire que Wea, déjà, tu sais, quand il l'a sur le rab pendant toute la mi-temps, je sais plus si c'était Wea, je sais plus, j'ai vu
il est sorti, il a pris un Doliprane.
Ouais. Mal au cerveau. Mec, c'est surtout ça qui est gênant. Après, voilà. Ce soir, ce qui est curieux, justement, c'est que après tout ce qu'on a vu, ce qu'on a dit sur notamment l'épisode René, c'est bizarre de voir qu'il est toujours dans cet état-là. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu trop de briefing à son égard. En revanche, ce que je disais tout à l'heure, lui, dans ce qu'il a mis en place et dans ce qu'il est en train de construire derrière, moi, je pense quand même que la sérénité viendra de derrière. Et là, on peut dire qu'il est en train de trouver une solution parce que même avec cette défense à trois, ça n'exclut pas de mettre Medina sur un côté. Donc, ils ont encore des solutions multiples et qui sont plutôt intéressantes. Même Morillo, quand il entre dans la rotation, Morillo, il a tout à fait sa place aussi là-dedans. Donc, moi, je retiens quand même que si ça peut l'aider lui à se calmer, c'est que quand il va trouver des solutions, à mon avis, il pourra être plus calme. Je pense qu'il n'est pas très sûr de lui, il n'était pas très sûr de lui, et notamment, à mon avis pour l'instant, de son animation offensive. Si déjà il arrive à trouver une assise, une tactique, une victoire sur le PSG qui peut donner de la confiance, ma foi, c'est déjà beaucoup.
Alors, évaluation marseillaise, Jean-Louis, quel est ton homme du match?
Alors, homme du match, moi, Højbjerg. Ah, c'est plus Taulier, peut-être, plus comme du match. Mais je pense que Højbjerg et Haguerd.
Il a marqué.
Ouais, voilà, Haguerd parce qu'il a marqué. Et puis, il te stabilise toute la défense.
D'ailleurs, il a été élu homme du match. Maintenant, il y a un homme du match.
Bah voilà. Mais Greenwood est pas loin aussi, hein. Greenwood, il faut le citer aussi. Et d'ailleurs, on parlait de Zerbi. On a beaucoup critiqué ses choix depuis son arrivée à Marseille. Mm. La réussite de Greenwood, c'est aussi la sienne, puisque pour le coup, c'est lui qui est derrière lui sur le travail défensif depuis longtemps.
Tout à fait.
Greenwood, on l'a assez critiqué pour le OM-PSG de l'an dernier où il s'était planqué complètement, pour dire que ce soir il a été bon.
Moi, il y a un joueur que je vais citer parce que j'ai une intention derrière, c'est Amine Gouiri. J'ai beaucoup aimé son match.
Taulier.
Il est titulaire ce soir et c'est pas forcément ce qu'on attend. Mais j'ai aimé son match, il a été disponible, il s'est battu, j'ai aimé son match et ce que je veux dire au-delà de ça, c'est que ça doit être lui le titulaire. C'est lui le titulaire de l'attaque. Il faut arrêter de croire qu'Aubameyang va redevenir un joueur indispensable, un gros. Il a plus de vitesse, Aubameyang. Sur les balles de.
Quand il est parti deux fois, là, il avait la vitesse quand même.
Si
non
vraiment il a la vitesse, il va.
Il est vrai que plus jeune, il a plus vite.
Il a forcément moins de vitesse.
Il a moins de vitesse. Bah oui. À Madrid, ça s'est vu. Ce soir, ça s'est vu. Il y a aucune raison que Gouiri que l'OM a recruté l'année dernière, qui a fait cette très belle fin de saison, qui a largement contribué à emmener l'OM là où il est aujourd'hui, à savoir en Ligue des Champions. Il n'y a pas de raison qu'Aubameyang, quand il arrive à l'OM, prenne une place de titulaire et passe devant lui. Je ne vois pas ce que Aubameyang aujourd'hui, et je ne parle pas du passé, aujourd'hui a de plus que Guiri. Guiri, il faut lui faire confiance. Il y a des joueurs qui ont besoin de confiance à Marseille. Ouais. Et Guiri, il a besoin qu'on l'installe, qu'on lui fasse confiance, parce que c'est un joueur qui marche à ça, qui marche à l'affect. Aubameyang doit l'aider à s'installer comme titulaire. Aubameyang peut être un joueur qui rentre en cours de match, comme ça s'est passé aujourd'hui. Mais ce que je vois d'Aubameyang en transition ce soir, où justement, comme il est un peu plus frais, il doit faire la diff sur une accélération, il ne le fait pas. Il n'y arrive plus à le faire. Moi, je veux que Guiri soit titulaire dans cette équipe et qu'il ne soit pas que redevenu un remplaçant ou Aubameyang grande et je vais sur la gauche. Non. C'est Guiri le titulaire de cette équipe. Il faut l'imposer.
Pour aller dans ton sens, Guiri, il faut aussi ne pas être trop regardant sur les stats quand il fait des matchs comme ça, parce qu'il a pas marqué depuis le début de saison, Guiri. Et c'est au début, grave. On commençait à lui reprocher, mais vu ce qu'il amène dans le jeu.
Il
jouait pas parce que justement lui reprochait de pas marquer.
Conférence de presse, on écoute ses premières réponses. C'est parti.
Les émotions que vous avez vécues.
Daniel, tu peux traduire ?
Il faut qu'il mette plus fort.
Joueurs de l'OM qui m'ont dit finalement on s'habitue un peu trop à ce que cette ambiance soit extraordinaire, mais c'est pas normal en fait d'avoir une telle ambiance. Racontez-nous juste un petit peu les émotions que vous avez ce soir.
Non, è vero. Non è normale. Bisogna.
C'est vrai que tout ça doit être normal.
Bisogna ogni volta che si arriva in questo stadio bisogna apprezzarlo perché arriverà il momento che non saremo più qua.
Dans ce stade, il faut savoir apprécier cette ambiance.
E quindi lo rimpiangeremo almeno. La gente che ama il calcio non può non apprezzare tutto quello che ti dà questo stadio.
Ne peuvent qu'apprécier cette ambiance et l'atmosphère dans ce stade.
Abbiamo fatto una grande partita.
On a fait un grand match.
Primo tempo molto molto bello, con pressione,
grande première mi-temps avec
energia,
un bon pressing.
Con intelligenza anche. E secondo forse c'è mancato un po' di energia fisica, credo. O energia fisica o
l'energia fisica che nous a manqué.
Guardavamo il tabellone 1-0.
Ou bloqué par le score et le tableau d'affichage.
Immaginavamo quella. Non vedevamo l'ora che finisse la partita, no?
Anche se
siamo ripartiti bene qualche volta con
Aubameyang,
qualche volta con Guiri. Però credo che abbiamo vinto meritatamente contro una squadra
che
Paris adesso sta segnando un'epoca. Ci sono state squadre
nella
storia che hanno segnato un'epoca, il Milan di Arrigo Sacchi,
gagner contro Barcellona e il fa riferimento al Milan di Sacchi o Barcellona di Guardiola.
Io credo che sia una squadra che stia
facendo un calcio diverso.
Donc quindi questo porta ancora più valore alla partita che.
Voilà, et ça donne encore plus de valeur au match qu'on a fait ce soir.
Pendant ce temps-là, les deux finalistes du Ballon d'Or sont Dembélé et Yamal. On a eu le reste du classement. Hakimi est sixième. Vitinha, troisième.
Très bien pour Vitinha.
Mbappé, 7. Et Hakimi, 6, sixième. Voilà, donc ça se jouera entre Yamal et.
Moi, je crois qu'on le savait, ça.
Entre Yamal et Dembélé, voilà. Bon, allez, on retourne à deux Herbie en attendant.
Je pense qu'il y a un peu une baisse d'énergie d'une partie physique.
Là, c'est la trappe. Bon, vous êtes d'accord avec ce qu'il a dit, là de...
Oui, ça fait deux matchs de suite où il fait la même analyse que nous, en fait. Mm. C'est bien.
Bon, bah, écoutez, il y a encore une réponse.
On prend le deux Herbie Ball.
Attendez, on va peut-être privilégier le Ballon d'Or, là, parce que c'est Ronaldinho qui.
Donc, les mecs ne le savent pas.
Ronaldinho, il a pris un peu. Hein.
Attends, on va voir s'il l'annonce à 48 précisément, comme ils disent dans le programme. On est à 47,50.
Mmh. Ah, 47, ça, ouais, il va être à l'heure pile. Hein,
regarde, il va l'annoncer pile à 48.
Alors, c'est bien fait.
Allez, Dembélé, on n'en parle plus, c'est bouclé. La lumière est sur lui.
La lumière est sur les deux.
Ouais, mais un peu plus sur Dembélé, j'ai vu dans les yeux.
Ronaldinho qui est venu avec des lunettes de soleil. Il faut dire que c'est vrai que nous sommes en plein soleil. Hein,
il est un peu vedette, Ronaldinho, ouais. C'est un peu une star. Bon, allez, Ronny, là, on avait dit 48, t'as 10 secondes de retard.
Ça y est.
Ah, il fait l'enveloppe.
Il ouvre l'enveloppe.
Le bruit de l'enveloppe.
Yamal ou Dembélé.
Tu vois, regarde, il y a un peu d'éclair dans les yeux de Dembélé.
Le suspense est total, messieurs, dames.
Allez, Dembélé, on n'en parle plus.
Et là, attention.
Il est dit.
Dembélé.
C'est Moussa, oui. Dembélé.
C'est Ousmane. Bravo.
Ousmane Dembélé. Ousmane Dembélé qui est.
Magnifique.
Et donc, Ballon d'Or.
Magnifique.
Quelle surprise!
Ah, bah, quelle surprise.
Bah, attends, c'est pas si évident quand même.
Ah, bah, on va voir les points
si,
au classement.
C'est évident pour nous, mais pour nous, c'est bien. C'est, oui. C'est un collectif, c'est parfait.
Non, mais c'est logique, les gars.
Ouais, les ballons d'or, franchement, celle-là, il fallait.
Est-ce que Nasser Al-Khelaifi va sortir le champagne du coup?
T'imagines si on te dit Dembélé ballon d'or au mois de décembre de l'année dernière?
Quand il tirait au-dessus?
Je pense que tu rigoles. Hein.
Mmh. Ah ouais. Bah comme quoi.
Non mais du coup, est-ce que la soirée est gagnée, tu vois, malgré la défaite? Puisque le plus important c'était le ballon d'or.
Ah oui, non, mais pour le PSG c'est anecdotique la défaite ce soir.
Ouais, en tout cas, on voit Nasser Al-Khelaifi tout sourire. Hein.
Je pense que c'est la soirée de sa vie. Hein.
Bon, je sais pas qu'on entend là. C'est la chanson. Dembélé ballon d'or.
C'est ce qu'a chanté Luis Enrique en conférence de presse.
Absolument, c'est la chanson des Parisiens et les Neves et Doué qui étaient juste derrière lui là, qui l'ont félicité en premier. Non, c'est quand même, c'était pas gagné d'avance contre Yamal.
Non, bien sûr que c'était pas gagné d'avance, c'est ce qu'on espérait. On trouve que c'est normal, c'est franchement c'est fort pour lui. Je sais pas si un joueur a déjà eu le ballon d'or comme ça alors qu'un an avant, mais même pas en rêve, tu peux imaginer une seconde que ce mec-là sera ballon d'or un jour. Honnêtement, il faut dire la vérité, il y a un an, on est fin septembre l'année dernière, mais qui peut dire que ce mec-là le sera un jour dans sa vie, avec tout ce qu'on savait de lui, c'est-à-dire le talentueux irrégulier, le talentueux qui peut rater un but à 2 mètres tout fait. Personne, c'est fou ce qui s'est passé
et
cette année.
Qui aurait pu dire il y a un an qu'il y aurait le premier, le troisième, le sixième et le neuvième
jamais
du PSG dans
l'année 2025, elle est, on a rarement vu. On a rarement vu une équipe à ce point.
Mais bon,
tout écrasé en
faut rappeler quand même, que dans l'histoire, c'est dingue parce que on parle du foot français, il y a quand même eu que Coppa, Platini, Papin, Zidane,
Benzema.
Donc en fait, ça fait c'est pas si facile quand t'es français d'avoir le ballon d'or, hein. Je crois que c'est les Argentins qui ont le record grâce à Messi en nombre de fois.
Et pensez quand même pour Coach Courbis qui a lancé à Rennes
et qui lui voulait le mettre en neuf avant tout le monde. Avant que des génies se penchent sur le berceau.
On avait un petit indice quand Yamal a eu le trophée Coppa tout à l'heure. C'est-à-dire le trophée du meilleur jeune. Bah, qui n'aurait pas le ballon d'or.
Ah oui, tu dis ouais. Tu veux quoi, bon. Tour de France, alors, tu ne peux pas gagner le maillot blanc et le maillot jaune.
Faisons les choses dans l'ordre.
ça, tu ne peux pas. Non.
Après 23h, on reparlera du ballon d'or. Mais
j'aimerais bien savoir ce qu'il dit, Dembélé.
Ah,
on ne peut pas l'avoir, le discours.
Non, on ne peut pas l'avoir en direct, je crois. Bon, on enregistre tout ça, on le réécoutera tout à l'heure.
Hein, il y a moyen qu'il fasse 2-3 petites vannes. Il est assez bon, il est assez drôle.
Je pense qu'il est très ému, vraiment.
Bon, on l'entendra tout à l'heure.
Ça fait plaisir aussi, parce que c'est un bon gars, Ousmane Dembélé. Globalement. Le dire aussi, par rapport aux joueurs qu'on croise, avec qui on discute, voilà.
C'est pour ça, des fois, il peut y avoir une petite saillie hydrolatique avec lui, il est bon.
Dans un instant, on finit l'évaluation, on aura Mathieu qui est supporter
donc,
parisien.
Finalement, ça gâche pas la soirée du PSG, non, parce que pendant 24 heures, on a l'impression que tout allait être gâché, c'est formidable.
Surtout que Daniel, il est 22h50, on a finalement assez peu parlé du PSG ce soir. Il faut qu'on en parle avec Mathieu dans quelques instants, on continue l'évaluation. On n'a pas fini celle de Marseille, on n'a pas fait celle de Paris. Jean-Louis reste avec nous encore un peu si tu veux bien.
On n'a pas écouté De Zerbi.
On se retrouve dans quelques instants. Bon, on a entendu une réponse de Zerbi, mais il s'avère qu'il est arrivé en même temps que le ballon d'or. Décidément, l'OM a tout fait ce soir pour court-circuiter le ballon d'or. De Zerbi en même temps que l'annonce. Bah.
Et au passage.
On le voit sur les écrans, ça fait marrer.
Sur le ballon d'or, je pense que quand même, tout ce qui s'est passé autour de Yamal dans l'été, en dehors de la réussite sportive de Dembélé, a pu lui nuire quand même au jeune Yamal.
Tu parles de quoi?
Ouais. De tout, des fêtes, de l'entourage, de tout ce qui a été fait autour de lui.
Il y a la finale de la Ligue des Nations aussi où il salue pas Ronaldo qui a pas joué en sa faveur.
C'est
un joueur incroyable, mais il va falloir qu'il contrôle un peu sa vie, son entourage et tout, sinon ça peut briller. Il a que 18 ans.
Dans ce ballon d'or, on rappelle ce qui s'est passé avec Zidane, on rappelle ça, tout ça peut jouer dans l'image que ça donne des joueurs. Et d'ailleurs, c'est pas totalement bête parfois, parce que c'est vrai que Dembélé, pour le coup, il a une attitude globalement irréprochable.
N'oubliez pas le numéro WhatsApp de l'After. J'ai un dernier message de Eric qui nous écrit du Canada. Il dit petite anecdote intéressante. Je suis supporter marseillais. Je suis enseignant en informatique. Et ben l'an dernier, avec le décalage horaire, évidemment, les matchs tombent pendant ces cours. Tous mes élèves s'en foutaient de la Ligue 1. Cette année, j'ai dû me battre avec 4-5 élèves en cours qui détournaient les ordi pour regarder les matchs. Les choses changent, nous dit-il.
Tant mieux.
Peut-être. Tant allez, mieux. À tout de suite dans l'After.
RMC, 22h, minuit, l'after foot.
Gilbert Bribois.
22h56 sur RMC, Jean-Louis Tour est au stade, Florent Gautreau, Daniel Riolo sont là, Ousmane Dembélé, Ballon d'Or et l'OM qui bat le PSG ce soir 1-0. On continue notre évaluation, tout à l'heure on entendra une bonne partie du discours d'Ousmane Dembélé, donc si vous avez raté ça, restez bien à l'écoute.
Très ému.
Oui, on le voit beaucoup pleurer.
Il a beaucoup parlé de sa famille et de ses amis et il était en larmes deux ou trois fois de suite là.
Et oui. C'est sa maman ?
C'est ouais. Sa mère là, je crois qu'il monte sur le...
C'est vrai ?
Sur le podium.
Ah, c'est ouais. Beau ça, bravo.
Bon, Mathieu est là, supporter parisien. Salut Mathieu.
Salut les gars.
Bon, c'est quoi ta priorité du soir ? C'est le Ballon d'Or ou le match ?
Oh non, bah, c'était le match quand même.
D'accord.
Ah bah je suis content de m'entendre dire, parce que si on en croit, ce qu'il ne faut jamais croire, les commentaires sur X, qui comme d'habitude sont toujours à côté de la plaque, c'est un monde parallèle, le match n'avait aucune importance.
Dis-lui Mathieu, il faut qu'il arrête.
Mais en fait il fait une fixette que sur les messages qui vont pas dans son sens. Mais il y a plein de gens qui sont d'accord avec toi sur ça, t'inquiète pas.
Non mais je le sais. Mais il y a quand même ces gens qui pensent que la cérémonie du Ballon d'Or, ça fait la promotion de ton championnat et tout. Mais qu'est-ce que les gens délirent ou quoi? Le fait que Dembélé, ce qui fait la promotion de ton championnat, c'est le PSG qui gagne la Ligue des Champions. C'est une Ligue 1 qui est visible. C'est des bonnes équipes en Ligue 1. C'est une concurrence en Ligue 1. C'est des bons joueurs révélés par notre championnat. C'est ça qui fait la cérémonie du Ballon d'Or, c'est la cerise sur le gâteau. Et ce soir, elle est pas gâchée. C'est comme si un acteur, ils ont pleuré. Pas, je dis encore une fois, je précise bien, pas tous. Mais tous les Qataris, ils pleurent sur ouais, ils sont pas là, mais des fois il y a des acteurs qui sont pas allés chercher un Oscar ou un César. Ça peut empêcher qu'on voit le film et que le film soit un chef-d'œuvre. La saison du PSG, c'est dans sa deuxième partie, c'est un chef-d'œuvre. Dembélé, c'est César et Oscar à la fois sur ce qu'il fait sur la deuxième partie. Rien n'est gâché. Tout est là, tout est présent ce soir. Le monde entier le voit.
Bon, la parole à Mathieu.
À quel moment on n'a pas vu les choses ? On les a vues les choses, mais ça fait 12 heures qu'on entend une tribune. Non mais attends, il y a quand même des gens qui sont influenceurs qui disent ça. C'est pas que les fameux Qatarix et tout. Il y a un journal.
Oui, enfin.
Il y a un journal.
Influenceurs, c'est quoi les influenceurs ?
Mais c'est des gens qui sont suivis.
Mais c'est pour les gens influençables.
Oui,
les influenceurs.
Mais, d'accord, mais c'est parce que tu ne peux pas balayer d'un revers de main cette nouvelle consommation du foot. C'est des gens. Moi, j'aime me confronter à eux pour leur montrer qu'ils disent et racontent n'importe quoi. Mais quand en plus c'est alimenté par le quotidien historique du sport français qui, pour défendre ses petits intérêts mercantiles, a balancé depuis 12 heures que la cérémonie du Ballon d'Or, c'est plus important que le match ce soir, là, je trouve qu'on touche le fond. Alors, je sais que cette boutique organise le Tour de France, est devenue aujourd'hui plus promotion du sport que du journalisme, alors que c'est normalement un petit peu un exemple pour notre métier depuis des années. Là, sur les 12 dernières heures... Ils m'ont fait honte. Ils ont fait honte à notre métier. Et je les invite à venir débattre de ça, mais sauf qu'ils ne veulent pas venir. Ils sont incapables de débattre aujourd'hui. Leurs prises de position sont alarmantes pour tout notre sport. S'ils veulent vraiment faire rayonner la Ligue 1, ils doivent dire que c'est formidable et c'est génial que Dembélé, on est tous contents de la saison du PSG, de tout ce qui s'est passé. Mais à côté de ça, il faut lutter pour la compétitivité de notre Ligue 1, de pas un club qui écrase les autres.
Alors, tiens, Daniel, ça va te faire plaisir. Pendant ce temps-là, je vois les images du CUP, le COP parisien, qui n'a pas pu se déplacer à Marseille et devant le théâtre du Châtelet, génial, avec tambour et drapeau.
Eh ben, c'est bravo. Bravo. Ouais. Je trouve que c'est.
Bon, Mathieu, évaluation parisienne. Ce soir, on a beaucoup parlé de l'OM depuis le début de l'émission, c'est normal, ils ont gagné. Qu'est-ce que tu veux nous dire ce soir sur la performance, les performances individuelles des joueurs parisiens ?
Eh ben, ce que je veux commencer par dire, c'est que on sait pourquoi il y a des joueurs qui étaient remplaçants avant tous les blessés. Je pense notamment à Ramos et Emery. Leur rapport au ballon, que je trouve vraiment limité, surtout Ramos. J'ai pas compté le nombre de fois où on lui a fait une passe en pivot et la remise était mal jugée, mal dosée, perdu. Zaïre Emery, habituellement, il met de l'impact physique, mais là, je l'ai trouvé dépassé et pareil avec le ballon compliqué. Donc moi, je le vois plus un futur dans un rôle de doublure d'Hakimi en latéral droit plutôt qu'autre chose. Et puis bon match de Marseille. Mais voilà, il y a des individualités qui font que le jeu que veut mettre en place Paris, t'as besoin d'être juste techniquement, et quand les joueurs sont pas capables, c'est pas possible.
Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, le débat, c'est tout, c'est formidable.
Vous avez Emery, Ramos, Boulet, quoi, pour toi.
C'est formidable la tactique, c'est formidable d'avoir un bon entraîneur qui a des super idées, mais l'individualité, les recrutements à 70 millions, quand ils sont bien faits. Quand ils sont bien faits, parce que l'argent, quand tu l'as, il faut savoir également bien l'utiliser. Et ça aussi, c'est à mettre au crédit de Luis Campos, notamment, d'avoir fait un recrutement avec des joueurs qu'il a mis à disposition d'un bon entraîneur. Et ils ont pondu une très, très belle équipe. Mais ce sont les individualités qui font la diff. Quand on les a pas, ça se voit.
Alors après, il y a quand même un truc.
Florent et Mathieu,
il y a quand même un point que soulève ce match, à mon avis, et un point qu'on a soulevé déjà dans le début de saison et dans l'avant-saison. C'est quand même le recrutement, on va dire, des joueurs de rotation. Puisque tu fais référence à ça,
Ça c'est vrai.
Et moi je pense que ce soir c'est important. C'est pas juste de se dire, si on balaye d'un revers de main ce match en disant, ouais, comme le fait Luis Enrique, on peut perdre des matchs de foot et nous on peut dire, ils s'en foutent, le PSG, ils seront champions, donc c'est pas grave. Moi je pense qu'on oublie un truc qui peut être utile même en Ligue des Champions, parce qu'ils n'ont pas eu de blessés l'an dernier alors qu'ils vont peut-être en avoir cette année. On a dit dans l'after, et on était plusieurs à le dire, que ce recrutement était insuffisant en quantité. Et je pense que trois recrues, puisqu'il y a eu trois recrues cet été, si je me trompe pas, c'est insuffisant, puisque certains ont montré, comme l'a dit Mathieu, des limites qu'ils montrent à chaque fois.
Et si, Flo, si on se penchait sur cette réflexion et sur ce à quoi servent les joueurs de rotation, pour se dire aussi que le Grand Barça, le Real qui gagne trois Ligues des Champions de suite, le Milan des années 80, toutes ces grandes équipes, au final, n'étaient que 12, 13, 14 joueurs grand max. Et que c'est toujours des équipes resserrées qui gagnent, qui finissent. C'est pour ça que c'est très rare d'enchaîner, de gagner deux années de suite, et que ce qu'avait fait le Real ou le Milan en 100 ans, ou et d'ailleurs que le Grand Barça n'avait même pas fait, hein, parce qu'il gagne 2009, 2010 il gagne pas, 2011 il gagne, 2012 il gagne pas, 2013 ils prennent une tarte par le Bayern, après ils disparaissent un petit peu avant de regagner 2015. À nouveau avec une équipe complètement différente, mais que finalement on est sans arrêt en train de parler de rotation, que ça sert en fait à faire souffler à des moments précis les titulaires, mais sur les petits matchs.
C'est ça,
tes gros, en fait, est-ce que tu gagnes avec ta rotation?
Non, mais tu
peux pas.
Non,
tu
mais
peux tu, pas,
je pense que
meilleur,
je pense que le PSG quand même peut faire mieux que le banc actuel pour avoir une rotation.
Oui, pour la Ligue 1. Quand tu joueras avec Magnolou, que tu joueras avec Lee, que tu joueras avec Ramos, les matchs de Ligue 1, tu les gagneras.
Il n'y a pas que la Ligue 1. Moi,
oui,
je t'ai dit que l'an dernier,
ils disaient les 12 pour la Ligue des Champions.
Oui, mais ça, l'an dernier, ça a été un miracle qu'ils les aient eu quasiment tout le temps.
Ils les ont eu pour 6 mois.
Oui, mais la preuve, c'est que là, tu vois, ça pète et ça va continuer de péter. Oui, ce soir, t'as Nuno Mendes qui se prend une entorse de la cheville.
Il y a une forme de logique, en fait.
Et Vitinha qui en prend. Donc, moi, la question de ce soir, question sérieuse pour le PSG, c'est pas la défaite qui effectivement, et peut-être je parle du côté PSG, hein, elle est pas anecdotique du tout côté Marseillais, elle est peut-être anecdotique côté PSG dans la saison, je pense que ça ne veut pas dire grand chose pour eux, effectivement parce qu'il manque Edoué et Neves et Barcola et Dembélé, en revanche la question légitime pour la rotation en Ligue des Champions, c'est de se dire, le PSG a été trop, on va dire, trop économe cet été sur le mercato pour ces joueurs de rotation, ou en tout cas trop gentil avec ceux qui
ont montré des limites. 40 sur Bradley Cooper, 50, peut-être même un peu plus.
Ouais,
et c'est tout. 45 sur Chevalier.
Et Renato Marine.
Mathieu, est-ce que tu en sauves un ce soir de joueurs parisiens?
Oui, bah Vitinha quand même, comme d'habitude, on va dire.
Carrément. Zabarni,
troisième du Ballon d'Or. Zabarni, hein, Zabarni le milieu de terrain que la plupart des Qataris ont pleuré n'a jamais été aussi bien classé au Ballon d'Or.
C'est fou, obligé de le replacer, ça.
Bah, je le replace. Moi, Vitinha, j'ai toujours aimé, quoi.
Non, mais Vitinha ce soir,
donc tu sauves Zabarni, Vitinha.
Non, ce soir, honnêtement, Vitinha fait un très bon match. C'est dur de faire un très bon match dans ce PSG-là.
Hakimi, je l'ai pas trouvé très bon aujourd'hui.
C'est parce qu'il n'était pas à sa place et tout, mais enfin, c'est quand même le gars quand il a le ballon.
Moi, il y a plusieurs choses sur Hakimi et Nuno Mendes. Très clairement, leur positionnement les a gênés, les a mis en porte-à-faux. Je pense quand même que Nuno Mendes, le coup qu'il prend sur les minutes qu'on suivit sur le match, je l'ai vu à un moment donné se faire prendre de vitesse plus ou moins par Pavard, ce qui m'a paru un petit peu curieux. Je me demande si, en gros, cette entorse là, qu'il a eu sur le terrain n'a pas joué. Zabarni a été bon dans le duel, dans une défense à trois. Je demande à voir pour le reste, pour la ressortie de ballon. Je peux pas juger sur ce que j'ai vu là, même si c'est un bon joueur. Mais Vitinha, moi, je trouve que dans ce match-là, jusqu'au petit lob tenté sur Rouli.
Il y a un joueur qu'on n'a pas cité, mais qui fait énorme, qui fait une belle boulette ce soir, c'est Chevalier. Il nous a fait une sortie.
C'est vrai, tu as raison, faut le dire.
C'est une mauvaise sortie.
Ah ouais. Enfin, je dirais même pas
en
la Donnarumma.
En plus, le blessé derrière.
Ouais, non, genre, il y a faute.
Ouais, c'est ça ce que je voulais dire.
Même ses coéquipiers, genre,
on dit, c'est pas pire que ce qu'a fait Gendouzi dans le derby de Rome. J'avais pas vu l'image, mais là, t'es encore plus magnifique. Mathieu, un truc à rajouter pour conclure?
T'as raison quand même, non, mais souligner ça, Gilbert, sur Chevalier, parce que Chevalier, il avait fait des débuts quasi parfaits. Évidemment qu'on l'attend et que tout le monde l'attend aussi sur ça. Et bizarrement, c'est même pas la sortie aérienne classique sur coup de pied arrêté, tu sais.
C'est non, effectivement... pour lui, normalement, c'est la balle. Il pourrait même aller l'attraper à deux mains.
Absolument. Là, pour lui, c'est quand même
c'est la maladie des gardiens,
du jugement qui n'est pas coutumé.
Mathieu, oui, pour conclure, vas-y.
Ouais, c'était juste pour répondre par rapport à Florent sur le recrutement de Paris cet été. Pour moi, c'est pas forcément un problème de quantité, c'est un problème de compatibilité des joueurs qui sont présents sur le banc avec le style de jeu de Luis Enrique. Ramos, c'est pas compatible. Zaire Emery, malheureusement, je pense...
Bah, Lee, c'est compatible, mais il est pas assez fort. Zaire Emery, techniquement, c'est un peu faiblard. Ok, d'accord, mais bon... Oui, je comprends ce que tu veux dire aussi. Après, qui d'autre?
Non, mais je pense que l'erreur de Luis Enrique là, sur, enfin, de leur stratégie de dire si j'ai pas mieux qu'un tel, je veux personne. Ok, je pense juste que... ça veut donc dire, comme dit Daniel, que tu te condamnes à jouer forcément tout à 13 et à 14 tout le temps, et que ça, c'est, je pense que c'est un risque. Pour moi, c'est le seul risque. On dit, est-ce qu'ils peuvent répéter la même saison? Ils peuvent aller très loin en Ligue des Champions. Mais tu vois bien là, ce soir, et même ce sera le cas évidemment si c'est le cas avec d'autres joueurs, que sans Dembélé, Doué et je pense même surtout à Neves en premier peut-être au milieu de terrain, bah tu pourras pas. Donc
ah, mais si ce milieu de terrain il est cassé des trois hommes, t'as du mal. Mais quand même, encore une fois, je vais reprendre mes exemples, Flo.
Tu peux les prendre après la pub.
Si tu veux, Gilbert, si allez, tu veux.
Très bien. Je remercie Mathieu au 32-16 et ensuite on conclura sur ce match.
Tu fais pas le coup après la pub de hey, maintenant on fait ça, non.
Ballon d'or. Eh ben, reste concentré. À tout de suite dans l'after.
RMC jusqu'à minuit.
L'after foot.